Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, toujours là, l'équipe de Time Sport pour vous accompagner pendant ces périodes de fêtes de fin d'année. Et oui, le mardi 28 décembre, et ce soir on verra quoi au programme de cette émission. On parlera de ce Covid-19 avec cette crise sanitaire toujours présente. Nouvelles mesures dans les stades, dans le domaine du sport. Mbappé vainqueur des Globe Soccer Awards. On parlera aussi de sa star parisienne, le gamin de Bondy, sans oublier Manchester United. Les Diables Rouges, justement. Toujours en convalescence, l'équipe a un certain CR7. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01-53-48-3000, pour réagir en live. Giovanni, notre réalisateur, se fera un plaisir, excusez-moi, de vous faire passer en live, afin de vous faire réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Alors, on va commencer cette émission avec le JT Sport, concocté par Jason.
Time Sport. Et on démarre les infos du mardi par l'officialisation du transfert de Ferran Torres au FC Barcelone cet après-midi. L'international espagnol s'engage jusqu'en juin 2027 contre la somme, on le rappelle, de 50 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. En tennis, l'Autrichien Dominic Thiem renonce à l'Open d'Australie qui démarre dans quelques semaines suite à sa blessure au poignet droit qui l'empêche donc d'être à 100% de ses capacités dans la compétition. Le joueur l'a annoncé de lui-même sur ses réseaux sociaux. Un mot d'alpinisme. Après deux jours de recherche, les deux alpinistes français qui avaient disparu près d'un volcan en Argentine ont été retrouvés sains et saufs ce mardi après-midi, annoncent les autorités locales. Et enfin, on termine avec un mot de NBA, où on apprend via ESPN que la durée de l'isolement des joueurs vaccinés pourrait passer de 10 à 6 jours dans les prochaines semaines. Et on y reviendra longuement sur l'épidémie dans l'émission du jour avec Bilal et toute l'équipe. Prend tout de suite le relais. Bonne soirée à tous sur Time Sport.
Eh oui, justement, on est tous ensemble avec Jason. Boula pour m'accompagner ce soir. Comment ça va, Boula ? Ah ben ça va.
Tout va bien.
Tranquillement. Tout va bien pour Boula. Eh oui, Meshad nous a rejoint. Comment ça va, Meshad ?
Bonjour, Bilal. Comment ça va ?
Ouais, ça va très 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 bien.
Je suis très content d'entendre ta voix tous les jours.
Ah ben nous aussi.
Ah ben... Encore plus en live.
Ah ben c'est super gentil ça. Tout comme Abdel. On a l'impression de l'avoir avec nous, Abdel. On le quitte plus. Eh oui, Abdel, notre consultant, comment ça va ?
Ça va très bien, bonsoir à toutes et à tous, très content d'être là, comme d'habitude.
Et coupe fraîche aussi, au rendez-vous.
Bon,
super sympa.
Pas, très beau, très élégant.
Eh oui, voilà. Il est toujours élégant, Abdel. Voilà, Giovanni, on le rappelle, le numéro du standard, le 01-53-48-3000 pour réagir. Allez, sur le premier sujet, on y va.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Et oui, pour freiner donc la propagation du Covid-19, la France réimpose des jauges dans les enceintes sportives. De 2000 à 5000 pour les structures en extérieur. Mais Chad, il fallait. Omicron est toujours présent et bien là, ancré en Europe, en tout cas, du moins en ce moment.
Mmh. Oui, bah, il fallait. Ça va aussi permettre de réduire la connerie qu'il y a dans les stades ces derniers temps. Donc, c'est pas
on en parlait hier avec notre invité du Bob.
Mais oui, il fallait. Voilà, le foot ne fait pas exception. C'est pas encore un meeting politique, donc peut-être qu'on pourra faire des choses pour, faire en sorte que les stades soient pleins.
Ouais.
Non, c'est un événement, c'est des grands événements. On doit faire attention. Le foot ne fait pas exception. C'est comme ça, ouais.
Abdel, ouais, justement, non, le sport.
Assez,
on dirait qu'on va laisser un moment de, un petit répit, quoi.
Un moment de répit. Ouais. Je pense pas.
Ça ferait du bien, non ?
Comme ça rassemble pas mal de personnes à chaque fois, et ben alors, c'est quelque chose auquel on doit couper court à chaque fois qu'il y a ce genre de démarche qui est réalisée. Maintenant reste à voir comment ils vont mettre les gens en tribune, comment ils vont les disposer, parce qu'à chaque fois il y a qu'une tribune qui est ouverte, voire deux. C'est il y a presque tout le monde qui est côte à côte dans une même tribune. Quand t'es 5000 à côté, franchement ça sert pas à grand chose de d'utiliser ce processus. Après maintenant, comme il le dit Meshad, peut-être que ça fera réfléchir certains aux conneries qui peuvent faire ou qui voulaient faire en allant dans les stades, parce qu'on a été privé, comme on le dit à chaque fois.
On en parlait hier avec le coach Atelier.
De supporters pendant cette période-là.
Ouais. Elle est toujours là, elle est toujours présente, la période.
On a attendu que ça reprenne pour faire n'importe quoi. On dirait que ça a libéré certains esprits.
Ouais.
Et voilà, malheureusement, je pense que ça peut que apaiser certaines tensions et certaines idées un peu malsaines qui n'ont rien à voir dans les stades de foot.
Jean-Michel doit être content, Jean-Michel Aulas.
Oui, ouais. Monsieur Aulas, c'est pourquoi ?
Parce que le pauvre ami, il a quand même été victime C'est comme ça qu'il se définit, hein, victime d'un supporter une première fois contre Marseille et d'un certain nombre d'individus supporters du Paris Saint-Germain dans un second temps contre le Paris FC. Non, blague à part, évidemment que c'est triste parce que ça veut dire qu'on n'a toujours pas endigué cette maladie, ce virus, quoi.
Et c'est une pandémie, ouais, l'échelle mondiale.
Je préfère en rire qu'en pleurer, mais ça reste triste. Hein, ça reste triste parce que c'est une fête et on en sera encore privé, je pense, jusqu'à la fin de la saison.
Ça fait pas plaisir à tout le monde, n'est-ce pas, Boula?
Bah, écoute, la gestion médicale, je pense qu'elle appartient pas au monde du football, c'est aux scientifiques. Après, si on faisait peut-être plus confiance aux scientifiques, certains scientifiques, on est un petit peu écartés de la gestion médicale, on aurait moins de problèmes dans les stades et on n'aurait pas aujourd'hui, c'est qui paye les pots cassés, c'est les supporters. Maintenant, il y a pas que le football, il y a le quotidien des gens, il y a le bien-être des gens et aujourd'hui, on sent qu'il y a une incohérence au niveau médical. Alors aujourd'hui, on prend le football en otage. Je pense qu'on prend le football en otage parce que je pense que rentrer dans un stade avec des passes sanitaires, je pense qu'ils peuvent gérer. Maintenant, comme ils peuvent pas gérer, vu la violence qu'il y a sur les stades, je pense que ça a été un petit peu facile pour eux de réduire. Je pense que c'est plus ce qui se passe au niveau sécurité dans les stades que la gestion médicale.
Ah, carrément. Ouais. Toi, c'est ce que tu en penses, oui. Abdel aussi, il est d'accord avec Boula.
Oui, je pense que ça peut être utilisé comme un prétexte pour appuyer certaines choses, comme on l'a dit, certaines démarches un peu délicates qu'ils ont eu lieu récemment là. Après, c'est dommage pour la Ligue 1 parce que pour moi, la Ligue 1 était quand même en expansion. Il y avait des clubs qui comptaient vraiment sur ce qu'on appelle. Ouais, mais on comptait vraiment sur ce qu'on appelle entre guillemets le 12e homme. Et franchement, priver des gens de football parce que des gens qui sont remontés ou d'autres qui ont besoin de leurs supporters parce qu'ils sont en difficulté ou autre, ça peut générer quelques problèmes. Et au moment aussi où c'est quand même la crise du Covid, ça reste aussi il y a un côté crise un peu financière. Le fait de pas avoir
et ces petits clubs
de pas avoir de forcément de
passer au travers peut-être la jauge de 5000 supporters comme les petits poussés en équipe de France. On en parle avec toi aussi, Boula. Pour eux ça va être sympa.
T'as pas forcément de rentrée d'argent. Souvent après dans les situations comme ça, on te dit que t'es pas prêt de peut-être si t'as pas eu les fonds nécessaires, t'es pas forcément validé par tout ce qui est DNCG etc. qui prennent pas forcément en compte tout ce qui est contexte sanitaire. Donc c'est vrai que une décision prise, ça amène plusieurs choses par la suite et c'est pas bénéfique encore une fois de faire ça de cette manière-là. Mais comme le foot c'est un sport populaire et que c'est facile de taper un peu dessus, pour moi je dis bien taper, et ben on s'attaque directement à ça parce qu'on n'a pas entendu ça pour par exemple d'autres sports pour le moment. Et comme Mécha de le rappeler, pour des meetings politiques ou autres, on a le droit d'être collé serré pour débattre, donc je trouve qu'il y a un peu de favoritisme et qu'on choisit mal ses combats.
Après,
dis quoi ça ?
N'en déplaise aux complotistes, je fais exprès d'utiliser ce terme-là.
Ouais, pourquoi ?
La vérité, c'est que le foot, on s'en fiche un peu là. On est dans une crise qui fait, qui a dernièrement fait 100 000 cas en un jour. Tu regardes un des plus gros stades en France, c'est l'Olympique Lyonnais qui fait 55 000 personnes. Enfin, je veux dire, si on met à l'échelle, ça voudrait dire que potentiellement dans ce stade, il peut y avoir tout un stade contaminé. Donc à un moment donné. Quelle est la solution quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éradiquer le virus. Donc effectivement, si on doit passer par un moment où on doit réduire réduire le nombre de personnes qui se retrouvent dans un endroit donné, il faut passer par là parce que à côté de ça, il y a et des gens qui sont contaminés et des gens qui en meurent encore tous les jours. Donc j'ai envie de dire, même moi qui suis passionné de foot, là c'est pas la priorité. La priorité c'est de protéger les gens, protéger les joueurs. En première ligue, il y a plus de 100 joueurs qui sont touchés par le Covid-19 et qui peuvent pas jouer en période de Boxing Day. Enfin, dire,
c'est vrai.
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de dire c'est pas grave et puis les joueurs qui sont pas là seront remplacés par les U21 ou est-ce qu'on essaye de trouver des solutions et de faire en sorte que les déplacements se réduisent pour les supporters? C'est compliqué comme décision à prendre, mais il y a une décision qui doit être prise.
Alors on a des réactions avec Rachid qui sont d'accord. Moi je trouve que Sophie aussi avec toi Meshad.
Je trouve que c'est pas compliqué. Tu prends quelqu'un comme Vira
Patrick Vieira,
il a le Covid, ouais. Il est chez lui, et voilà. Et après, la gestion des malades, à un moment donné, on n'a qu'à mettre des tests en place, et puis voilà. Et ceux qui sont testés, ils restent chez toi. Moi, j'ai chopé le Covid, je suis resté 10 jours chez moi.
Ouais.
Après,
toi, t'es responsable, Boula.
Non, mais c'est
pas le cas de beaucoup.
Ouais. Non, mais c'est pas le problème de t'es responsable. Le problème, c'est quand tu parles de complotistes. Aujourd'hui, la réflexion des scientifiques, c'est les scientifiques qui mettent les deux premiers vaccins, au niveau des gens qui te le donnent plus, c'est plus les gens qui ont été vaccinés. C'est des bombes à virus. Après, il faut savoir que dans le troisième vaccin, les gens ne veulent plus se vacciner, ils n'ont pas confiance. Après, c'est un problème médical. Quand tu parles de complotistes, aujourd'hui, c'est des sommités médicales qui donnent cette réflexion. Tu crois que c'est le petit du quartier qui parle comme ça, ou après, faut à un moment donné.
Je parle des personnes qui ne souhaitent pas soit se vacciner ou qui continuent à aller dans des endroits où il y a potentiellement une contamination, en oubliant effectivement qu'il y a un virus qui circule.
Quand il laisse les bars ouverts, je trouve que les bars, les gens ils sont collés, et puis ça ramène du monde. Tu regardes tous les bars à Paris aujourd'hui, ils sont pleins.
Justement, les restrictions vont freiner. Les restrictions.
Les bars, faut que tu saches que les bars, c'est une économie. Au niveau en France, c'est une économie très très importante.
Ouais, bien sûr.
C'est une économie très importante. Et après, on le dit bien, regarde, ils ont fermé les boîtes de nuit, les salles de théâtre, bon, ça va, ils sont pas encore fermés. Heureusement pour le monde du spectacle et du théâtre, parce que bon, il n'y a pas que le football. Après, à un moment donné, je pense que le plus important, c'est pas les stades ou le truc. C'est aujourd'hui, c'est médical. C'est à un moment donné, il faut faire appel aux grands scientifiques et ceux qui peuvent te soigner. Même aujourd'hui, un médecin, il peut même plus te donner un traitement. Il y a une cohérence quelque part. Avant, t'avais un médecin traitant, il gérait ton médical et il t'orientait ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait pas faire.
Mais toujours là, le médecin aussi.
Après,
hein,
la décision qui a été prise, elle reste en accord avec ce qui se.
Bah oui.
Pas forcément de ce qui se passe au niveau de la pandémie, mais aussi sur le fait que là, on est en période de fête de fin d'année. Ils te disent qu'il faut réduire ça, il faut pas être avec un nombre de personnes et autres, etc. Donc forcément, ils sont dans une continuité où les gens ils se sont beaucoup vus. Il y a eu beaucoup de mouvements. On ne sait pas trop ce qui se passe. Donc potentiellement aller dans des stades de foot où, comme tu as dit, on peut rentrer avec n'importe quel passe sanitaire ou quoi. Au final, c'est des gens qui ne sont pas forcément vaccinés, qui ont pu avoir des choses ou quoi. Donc je pense que c'est une précaution qui est faite, mais je ne pense pas que ça durera par contre autant que ça l'a été par le passé, on l'espère. Et mais moi, honnêtement, je trouve que voilà, c'est toujours pareil aussi, parce que on peut parler de quelque chose. C'est vrai que la capacité des stades aussi n'est pas la même. Tu disais Lyon qui a 55 000 places, mais le stade de Clermont, il est peut-être à 7 ou 8 000. Tu vois, si tu peux mettre 5 000 personnes, c'est pas non plus quelque chose qui est similaire, alors que c'est une décision qui est prise. Mais finalement, ça n'a pas la même répercussion, dans le sens où le nombre n'est pas pareil. On dirait un peu les sanctions qui ont été prises hier entre PFC et Lyon au niveau des...
Ouais, niveau aussi, il y en a eu. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Après le Covid-19, on va revenir sur le gamin de Bondy qui n'est autre que Kylian Mbappé, sans oublier aussi l'actualité de la Ligue 1 Uber Eats.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Boula, Meshad et sans oublier Abdel, le numéro du standard, le 01 53 48 3000, pour réagir avec nous. Allez, on va s'attarder sur le cas de Kylian Mbappé.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Globe Soccer Awards, Kylian Mbappé élu donc meilleur joueur de l'année. Dépend de stars telles que Karim Benzema, Robert Lewandowski ou encore Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah, le fameux pharaon égyptien. Que dire là aussi, une belle chose pour la star parisienne, Meshad.
Il n'a pas gagné le Ballon d'Or.
Non, il n'a pas gagné le Ballon d'Or, mais il a gagné le Globe Soccer Awards.
Ok.
C'est assez intéressant, vraiment.
Ouais.
Ouais.
Non.
Du côté de Dubaï, la cérémonie a eu lieu.
Ouais, très belle cérémonie.
C'est sûr. Kylian Abdel, ça le fait sourire, ça fait plaisir aussi.
Kylian était très content de recevoir ce prix.
Ça l'a permis aussi de rencontrer Karim.
Bien sûr.
Oui, encore une fois.
Et les dirigeants du Real Madrid. non, que dire, c'est toujours très dur parce que il avait des concurrents qui étaient absolument fantastiques à côté de lui. Comment ne pas penser à Karim cette année qui a fait une saison extraordinaire et qui a apporté tout le Real Madrid et qui porte le Real Madrid depuis... Depuis quoi? Depuis deux ans, trois ans maintenant, incontestablement. En plus, c'est, je veux dire, il y a même pas de débat, quoi. Alors après, je pense que c'est plus une récompense pour faire plaisir à des instances, à un club, à des dirigeants, plus qu'une vraie récompense. On va pas se mentir. Ouais. Soyons totalement honnêtes. Ça permet de gonfler le palmarès de Kylian. Ça permet de gonfler son peut-être futur salaire. Bref, tout ce qui va aller et tout ce qui va lui permettre soit de rester au Paris Saint-Germain, on l'espère pour la Ligue 1, soit de partir au Real Madrid.
Ouais. Ouais, partir ou rester.
Ça reste un titre honorifique qui l'a remporté. Après,
ça fait plaisir, Abdel.
C'est quand même c'est la 12e édition qui se passe avec cette cérémonie. Donc, on va dire que ça prend un peu d'ampleur quand on voit les noms. De toute façon, à chaque fois qu'il y a des cérémonies un peu dérivées, c'est toujours un peu les mêmes joueurs qui sont cités. Après, qu'ils l'emportent, c'est pas que c'est choquant ou pas. C'est juste que, voilà, ça lui fera un petit trophée en plus dans son armoire. Après, c'est quelqu'un quand même qui, au vu de sa saison, mérite d'avoir un titre de ce genre-là. Maintenant, voilà, il y a l'équipe d'Italie qui a été beaucoup récompensée, notamment hier. Après, comme il l'a dit Meshad, il y a eu certaines déclarations qui ont été faites parce qu'on sait que là, il y a l'heure qui va, dans quelques jours, il pourra signer là où il veut. Donc ça a un petit peu parlé de son transfert un petit peu au Real ou autre. Il a affirmé que il n'était pas du tout concentré sur ça, que c'était pas le but tout de suite, qu'il pensait déjà à battre le Real Madrid et autres. Donc c'est quelqu'un qui est un très bon communicant, qui quand on organise ce genre d'événement, on sait que c'est ce genre de questions qui va lui être posée plus que sur le trophée qu'il a reçu. Voilà, il a été franc comme à son habitude, et voilà, il n'y a pas de quoi faire lever la foule sur ce trophée, sur les déclarations qu'il a données hier.
Ouais. Qui est-ce qui vote
On se demandait, je sais pas si c'est un comité restreint. Ouais, on essaie d'avoir cette fameuse réponse, ou peut-être des journalistes.
Le problème de ce vote,
Ballon d'or France Football.
Le problème de ce vote, moi, je pense qu'il est cohérent par rapport au Ballon d'or. Déjà, je trouve que il est moins politisé ce trophée là que Kylian il a. Je pense qu'ils sont plus dans la réflexion des joueurs du moment, ou les joueurs de qualité entre Kylian et Benzema. Ils font partie quand même des deux joueurs au monde où ils ont carburé. Je pense que Kylian, on peut dire ce qu'on veut, mais au PSG, je pense que c'était l'homme clé du PSG, comme Karim était l'homme clé du Real de Madrid. Et quand tu regardes bien la gestion du Ballon d'Or, c'est ce que je disais à Eric là, le patron de 11 mondial, qu'il fallait faire un vote, un genre de Ballon d'Or, mais le 11 d'or. Mais le vote, ça serait que des joueurs professionnels du monde. Et après, là, je pense qu'il y aurait moins de surprises, il y aurait plus de cohérence dans le vote, parce que là, le Ballon d'Or, je pense que c'est un petit peu politique. Il est trop politisé. Et tu prends un mec comme Messi, on le met trop en image, en avant. Tu prends Cristiano Ronaldo. Ouais. Déjà, quand tu regardes les deux.
Cristiano Ronaldo.
Ouais, il aime bien l'appeler Cristiano. Mais là, vas-y, il a le droit, bien sûr. Bah oui, vas-y.
Cristiano Ronaldo. Pas de Jean-Luc aussi. Cristiano Ronaldo, en termes de footballeur, et en termes d'image, et en termes de com, par rapport à ses interventions humaines, je pense qu'on le met un petit peu de côté.
Ah, carrément, selon toi.
Pour moi, on le met un peu de côté.
Ouais, intéressant.
Ouais, par rapport à ce que dit Boula, moi, c'est justement un point que je voulais soulever.
Alors, pourquoi, Abdel, vas-y.
Tous ces trophées qu'on voit et toutes ces cérémonies qui sont un peu annexes au Ballon d'Or, est-ce qu'à un moment donné, elles pourraient pas, justement, peut-être prendre la place d'un Ballon d'Or qui est plus forcément,
qui est un peu décrié, qui est un peu contesté.
Ouais, mais bah, tu verras. Peut-être
par la manière dont les votes sont réalisés. On voit que tout le monde essaye un peu de faire à sa sauce, à gauche, à droite.
Ouais.
C'est vrai que ça peut être compliqué, mais je me pose la question s'il peut pas justement avoir un changement et voir une cérémonie passer devant celle du Ballon d'Or.
Moi, oui. Je pense pas.
Mais Chad, alors.
Je pense pas parce que le Ballon d'Or est tellement ancré dans la tête des joueurs. Tellement ancré dans les institutions, tellement ancré dans la valorisation d'une carrière d'un joueur professionnel, que c'est trop compliqué de l'enlever. Alors peut-être qu'il faut le réformer, ça c'est une évidence. Du moins réformer la manière dont on fait les votes. Mais n'importe quel joueur aujourd'hui qui a du talent va te dire que son objectif c'est de gagner le Ballon d'Or. Ou de gagner une Coupe du Monde, ou de gagner une Coupe d'Europe, ou de gagner. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça dans le football qui sont indémodables et le Ballon d'Or fait partie de ces éléments-là. Et encore une fois, elle fait partie de l'institution. Ça fait partie d'une carrière professionnelle, et du moins d'une carrière professionnelle d'un joueur qui fait partie du top 5, top 10 aujourd'hui, quoi. Donc, ouais, c'est.
Alors, mais à part le nom de qui est approprié,
la marque,
qui voilà, la marque Ballon d'Or, c'est vrai, mais c'est pas qu'on pourrait entre guillemets copier, mais c'est quelque chose qui, pour moi, où il y aurait des personnes plus légitimes. Qui donne les résultats, parce que comment on a vu les votes, on en a parlé, il y a même pas trois semaines
les pro-votes pour le Ballon d'Or.
Il y a des personnes dont le foot n'est même pas le sport national, etc., qui votent, des journalistes, etc. Donc je pense que, après, c'est une supposition, ça se fera pas parce que moi je suis peut-être un idéaliste, mais je me dis que les gens, leur ras-le-bol pourrait les amener vers d'autres horizons.
Parce que par rapport à la différence entre les joueurs et les journalistes, tu sens que les journalistes, ils vont aller tous vers le business de l'argent et vers le business d'un personnage comme Messi.
Ils doivent pas, les journalistes, selon la convention de Munich, justement.
Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui,
ils ne peuvent pas. On ne peut pas marquer d'impartialité. Non, mais vraiment, et de neutralité aussi, Boula. Mais je vois ce que Boula veut dire. Mais vraiment, le journaliste n'a pas le droit, Meshad.
Quand tu regardes le vote du Ballon d'Or, c'est les médias qui gèrent ça.
Ouais.
C'est un problème entre les médias. Aujourd'hui, quand tu regardes, explique-moi comment que ça se fait que il l'a bien dit.
Meshad,
il l'a bien dit. Faut trouver une autre. Parce que c'est vrai que c'est prestigieux, le Ballon d'Or. C'est quand même un trophée. France Football a inventé un beau trophée, ouais. Et je pense qu'ils sont en train de perdre de crédibilité.
La Champions League aussi.
Je pense que la crédibilité, ils sont en train de la perdre au niveau du public. T'as des supporters,
cas, ça,
t'as des joueurs qui
sont fustigés sur Internet.
Bien.
Ouais.
T'as bien, exactement. Il y a des gens qui ont mis en question la nomination de Léo Messi. C'est vrai que Léo Messi, quand il avait 17-18 ans, ça a été joueur exceptionnel. Il est tombé sur une année du Barça, et en termes d'image, il signe à Paris, on lui donne le Ballon d'Or. Là, pour moi, on lui a donné le Ballon d'Or. Et encore, s'il aurait été même plus courageux, c'est de dire, je pense que je le méritais pas.
Bien sûr.
Parce que je pense que au fond de lui,
il aurait distribué à Lewandowski ou à Karim
Benzema.
Il l'a bien dit dans son interview.
Il le dit. Après, à un moment donné, nous, on est là. Je connais un petit peu le football depuis 30 ans que je suis dedans.
Oui, Boula.
Je sais que l'image d'un joueur, au niveau de la presse, elle est protégée. Il y a des joueurs. Tu prends un mec comme, je vais te donner un exemple. Tu prends un mec comme Fekir. Est-ce qu'on en parle depuis 3 mois? On parle pas de lui. Pourquoi on parlerait pas de lui? Pourtant, c'est quelqu'un qui.
Ouais, justement. Vas-y.
Pourtant, Fekir, c'est quelqu'un qu'en ce moment, il a
un très beau niveau. Ouais.
Voilà, il est en train de tout péter, mais on parle pas de lui. L'autre fois, je disais à Daniel Riolo, je dis, comment que ça se fait, vous parlez pas d'un joueur de l'équipe de France qui faisait partie de la Coupe du Monde. On le met sur le côté, on l'a oublié. Peut-être, en termes d'image, il dérange. À mon avis, c'est peut-être plus ça en termes d'image. Tu prends Hakimi l'autre fois, tu prends Hakimi la dernière fois, t'as Daniel Rolo qui me dit, ouais, t'as vu, il s'est loupé en communication. Il s'est pas loupé quand il dit, je me sens chez moi en France, parce qu'il sait très bien qu'en France, ils ont accueilli toutes les cultures et il se ressent un peu dans la vie de chez lui, de ses cultures, de de ses parents.
Alors,
et la richesse de la France.
Ouais.
Aujourd'hui, Daniel Rollo me dit ouais, mais c'est pas bien, il s'est loupé dans sa communication. Ah d'accord, il s'est loupé parce qu'il a dit des choses.
Voilà, voilà.
Il a dit des choses avec son cœur et avec ce qu'il ressent. Il dérange. Et aujourd'hui, je sais qu'on lui tombe dessus, comme Karine Galli qui lui tombe dessus, parce que peut-être en ce moment, il a un ou deux matchs, en termes d'image, on va lui rentrer. Mais faut qu'il y ait un truc qu'il faut savoir, c'est qu'Hakimi, depuis qu'il est arrivé, il a été irréprochable. Ouais. Il a 5 buts, c'est un gros joueur du PSG. Et en termes d'image, faut à un moment donné.
Voilà, on connaît beaucoup trop de monde. On passe le bonsoir à Karine et aussi à Daniel, hein, nos confrères sur d'autres antennes. Oui, Meshad et Abdel, avant la pause.
Ce qui se passe, c'est que potentiellement avec je le répète toutes ces cérémonies annexes et on voit à peu près les mêmes personnes nommées à chaque fois, peut-être que on va regarder qui est élu de chaque côté, on va avoir peut-être plus de justesse et donner plus de crédit si on ne peut pas remplacer peut-être la marque qui est Ballon d'Or ou autre, peut-être qu'on donnera peut-être aussi du plus de crédit à certaines cérémonies. Pour moi, je pense que Le football, entre guillemets, souffre de plus en plus à travers, que ce soit dans les lois du jeu ou même ce genre de cérémonie. Donc, on n'est pas à l'abri de voir un changement par rapport à un ras-le-bol et par rapport à tout ce qui sont les votants. Je pense que quelqu'un qui a affronté le joueur même qui est nommé pourra te dire s'il a été impressionné ou pas, plus qu'un mec qui a regardé à la télé dans son canapé un joueur qui... forcé ou qu'il a pas côtoyé, donc je trouve que c'est assez dommage, faudra changer.
Je parlais avec vous là de nos confrères de France Football, c'est vrai, France Football a inventé pas mal de compétitions, faut le rappeler, à l'échelle européenne, à l'échelle française, et même ses prix individuels tels que le Ballon d'Or. Faut savoir aussi que les autres récompenses à l'échelle internationale prennent de l'ampleur, Abdel. Non mais vraiment, ça va te faire moins sourire quand même, parce que plus de 15 millions de votes pour leur star préférée ont été récoltés pour ce fameux Globe Soccer Awards. Ça fait près de 12 ans que c'est mis en place dans 210 pays à travers le monde. Les fans ont pu voter à travers internet, près de 40% des votes quoi qui ont été récoltés, et tandis qu'un jury spécial concocté avec des entraîneurs composé plutôt de directeurs et de présidents de clubs qui ont constitué le reste pour ce fameux vote final. Voilà, tout de même, hein. Ouais. Tout de même, Boula.
Aucun
journaliste,
ça revient pas au même
choix de vote tel que le France Football.
Ça revient à ce que je dis. Le mec, il a mis un truc en place qui est différent du vote du Ballon d'Or.
Eh oui, c'est différent.
Et il s'en rend même pas compte, le responsable du Ballon d'Or.
Et on est acteur de cette édition de toutes les éditions de Globe Soccer Awards.
Si on n'est pas d'accord, on peut pousser.
Mais pour moi, c'est un problème. Parce que ça, c'est des votes FIFA, ça. C'est des votes FIFA, tu sais, je vais être un petit peu condescendant.
Là, c'est des votes.
Ce que je veux dire, c'est que je vais être un peu condescendant. Quand tu donnes la possibilité à des gens et à n'importe qui de voter, tu donnes la possibilité à des gens qui connaissent peu le football et qui regardent que les compétitions internationales, par exemple, ok, quelques matchs.
40%, pas tout.
Ouais, mais 40%, 13 millions de votes, c'est énorme, tu vois. Tous les petits jeunes qui vont voter des Kylian Mbappé, mine de rien, tu sais, ça fait augmenter le
sport. C'est vrai qu'il a raison.
Moi, pas d'accord.
Moi, personnellement,
c'est des votes
j'aurais pu, quand j'ai parlé de l'idée à 11 mondial, j'aurais pu dire, ouais, voter les supporters. Et c'est vrai que tu rentres dans un phénomène de jeunes entre eux, tu vois.
Bah oui.
Mais moi, quand j'ai bien dit de faire voter les joueurs professionnels du monde qui ont un contrat pro. Voilà. Exactement. Par contre, je parle de référents. Et aujourd'hui, les plus grands référents du monde du football, pas les médias, c'est les joueurs. Et les joueurs, il n'y a pas mieux qu'un jugement des joueurs. Aujourd'hui, quand tu regardes l'UNFP, qui c'est qui vote pour le meilleur joueur? C'est les joueurs de football.
Ouais.
Voilà, c'est les joueurs. Et c'est là que tu vois, les choses, ils sont justes. Et tu regardes tous les gens qui ont eu les trophées du truc, ils ont toujours bien voté. Ouais. Tu prends un mec comme Belanda, il a été élu meilleur joueur. C'est qui l'a donné? C'est les joueurs. Mmh. Et là, tu sens qu'il n'y a pas de problème de
revenir alors à un vote joueur. Enlever les présidents, les directeurs. Alors, Meshad.
Un vote joueur et surtout un vote. Quand est-ce qu'on va voter pour un collectif? En fait, tu vois, moi, ce qui me gêne dans ce genre de.
Meshad, à chaque fois, à la fin de la cérémonie de The Best ou même d'autres cérémonies.
Ce que je veux dire, c'est que le football. ça reste un sport collectif. Et c'est le collectif qui brille plutôt que l'individualisme. Les récompenses comme France Football ont participé au fait que les joueurs aujourd'hui pensent de plus en plus à leur tronche, pensent de plus en plus à leurs statistiques individuelles. Quand des joueurs, je sais pas, tu prends des équipes comme Liverpool, pensent avant tout au collectif, et des joueurs comme Salah ou comme Mané aujourd'hui accordent peu d'importance à ce genre de récompense là parce que ce qui les importe eux, c'est la victoire collective. Et il faudrait pouvoir inventer ou du moins valoriser des joueurs qui font briller le collectif. Comme un Jorginho a permis de faire briller Chelsea et l'équipe d'Italie vers la victoire à la Ligue des Champions et à la Coupe d'Italie, enfin le, au championnat d'Europe, pardon. Et ça, malheureusement, c'est pas suffisamment mis en avant.
Voilà. Justement, un exemple. Alors un exemple, on a une réaction pour toi, Boula.
Un des entraîneurs les plus justes et les plus corrects et les plus droits en termes d'image et en termes de com et en termes de culture et de valeur, tu prends un mec comme Klopp.
Jürgen Klopp, l'entraîneur.
Quand il parle de ses joueurs et quand il parle de ses joueurs et quand il parle de ses joueurs. Ou surtout quand il parle de Sané ou de Salah, humainement c'est ce qui se ferait,
c'est ce qui fait de mieux.
Voilà, c'est ce qui se fait de mieux.
Comme Guardiola d'ailleurs.
Mais en plus de ça, non mais encore Guardiola il s'exprime pas là-dessus. Mais tu prends Klopp, mais il rentre dans les détails humains. C'est-à-dire que c'est un grand entraîneur, c'est un mec qui connaît bien le football, mais il connaît pas que le football, il connaît le
management.
Si tu comprends le côté humain du truc.
Bien sûr.
Même Arsène Wenger, il a je l'ai jamais vu parler
plaisir,
comme ça.
Mourad. Justement, on a Nabil, un auditeur qui est d'accord avec toi, Boula. Tu exclus directement les journalistes et tu laisses que les joueurs professionnels pour voter. Voilà. Et là,
après,
ça sera
pour la victoire de Lionel Messi au Ballon d'Or, il y a beaucoup de joueurs professionnels qui ont voté pour Lionel Messi. Hein. Alors on a tendance peut-être à l'oublier, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont voté pour lui. Donc toi qui es dans le football, Boula, peut-être que t'as une explication, mais étonnamment, on a vu que quand on regardait
Il paraît que les joueurs ils ont pas voté. C'est les capitaines. Les joueurs, ils n'ont pas voté.
Oui, mais d'accord.
Les joueurs ne votent pas.
Mais
ne votent pas.
C'est les capitaines.
Mais okay. c'est plus facile de gérer les journalistes au niveau puissance oseille. C'est plus facile de les gérer parce que eux, quoi qu'il arrive, ils vont aller sur Messi. Après, je veux pas rentrer dans les détails, dans certains détails qui. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais après, on sait. Aujourd'hui,
t'as des journalistes et des capitaines qui sont forcés de voter.
Tu prends un mec comme Zidane. Mais il a tellement eu cette image de discret, de rien dire, de talent, de partager, d'être collectif dans son
Zidane
jeu.
Zidane 17e au classement des personnalités préférées des Français.
Est-ce qu'il y a des capitaines qui ont reçu des pressions pour voter pour qu'il reçoit des pressions pour voter pour des joueurs?
Je sais pas s'ils ont reçu des pressions,
Abdel,
mais là
avant la pause.
On peut se dire que quand même Lionel,
capitaine, c'est des politiques.
Hein. Ouais, mais et Lionel Messi, le fait que aussi il a impressionné aussi pas mal de joueurs, peut-être que le fait qu'il ait gagné la Copa América, ils étaient contents. Pour lui, certains, tu sais, c'est un peu, c'est
l'influence,
c'est politique d'une certaine manière, tu vois. De dire voilà, il a gagné, c'est quelque chose de beau. En gros, ça a été un très grand joueur jusque là. Il a sa récompense avec son pays. On lui donne, allez, on va dire que ça reste dans une logique. Mais je pense pas que si on prend tous les aspects qui leur sont proposés pour voter, ils aient pris tout en compte. Ils ont dû prendre quelque chose un peu du fait que ce soit un peu émotionnel. Plutôt qu'un peu réaliste, tu vois.
D'accord.
Au niveau image mondiale, ils préfèrent avoir un Messi qui prend pas des positions et qui s'exprime.
Qu'un Mbappé ou qu'un Benzema.
Ah ouais, que Benzema. C'est... Benzema, il a deux cultures. Tu prends. Faut dire ce qu'il y a. Tu prends même un mec comme Cristiano Ronaldo.
On va essayer de revenir.
Il a des positions politiques.
Bien sûr. On va essayer de revenir.
Soit on essaye d'avoir des sujets très intéressants et une richesse pour l'auditeur qui comprend pas. Aujourd'hui, on est en plein présidentiel. Tu prends un mec comme Benzema. Il a été tricard pendant
2022. Ça arrive à grands pas.
Karim est premier dans nos cœurs, en tous les cas. Sachez-le.
Voilà.
Moi, en tout cas, il est premier dans mon cœur.
Dans celui de Meshad, oui. Voilà. Et aussi
devant
celui de
ma femme et ma mère.
De Boula. Voilà. Bon, restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Une courte pause. Et on revient rapidement avec les trois consultants de cette émission qui est Time Sport. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Ouais, je vaux mieux pas.
Oui, de retour avec Boula. Voilà, ça parle avec Meshad, avec Abdel. Pour la dernière partie de cette émission qui est Time Sport, ensemble jusqu'à 21h. Après 22h, vous retrouverez Vanessa avec à la réalisation Giovanni. Oui, Boula, on te laisse terminer peut-être. Allez, sur les joueurs avant de partir sur le Royaume-Britannique avec les Magpies Newcastle face au. Au Diable Rouge, Mancunien, eh oui.
J'avais mis gagnant Newcastle.
Ah ben.
Au côté match.
On va s'attarder directement, allez.
71e minute, ils m'ont tué.
On va s'attarder directement sur le football anglais. C'est parti.
Time Sport, le mode pressing.
Ah, Boula, Boula, faut le suivre. Hein.
Boula,
arrête. Ouais, Boula, tranquillement. Giovanni, ça va l'énerver un peu. Eh oui, un but partout. Saint-Maximin, Edison Cavani, les buteurs.
Ouais, Abdel. On aurait pu s'attendre hier à un match un peu plus.
Alors, Newcastle,
un peu plus à sens unique justement pour Manchester. Heureusement et on va dire pour le spectacle, Newcastle a réussi à mettre en difficulté l'équipe de où Cristiano Ronaldo est justement. Maintenant, Newcastle n'était pas forcément en bonne posture. Peut-être que depuis qu'il y a l'annonce de leur fameux rachat, ils n'ont pas trop envie de descendre et de commencer leur projet à l'échelon inférieur. Donc, ça commence un peu à se réveiller. Comme tu l'as cité, ouais. Alan Saint-Maximin a marqué. Alors c'est un joueur qui est vraiment très très bon. Honnêtement, je sais pas ce qu'il fait à Newcastle. Ça aurait dû être un tremplin. Oui, certes, Meshad, il y a l'argent qui joue, mais quand t'es en première ligue et que il y a quand même au moins 10 clubs qui sont meilleurs que Newcastle. Donc, je trouve que voilà, il se perd un peu, même s'il y a un projet qui arrive. Et après, comme on le disait hier pendant l'émission, quand on parlait du Boxing Day.
Alors, on en parle.
C'était un match qui était dans la continuité de ce qui s'était passé le dimanche. Il y avait eu 26 buts inscrits. Là, il y a eu un peu de spectacle, même si les buts n'étaient pas forcément au rendez-vous. Mais c'était un match très ouvert et un vrai match de première ligue. Et Cavani aussi qui marque. Cavani qui était annoncé du côté du FC Barcelone, pas forcément désiré du côté des Mancuniens. Donc, c'est un peu aussi pour montrer que même si on n'en veut pas, il est quand même professionnel jusqu'au bout.
Ouais. Meshad. Alors à la suite d'Abdel, sa réaction.
Qu'attendre d'un tel match, t'as Newcastle qui, mine de rien, c'est très faible. Franchement, on va pas se mentir, c'est très faible.
Max, Newcastle.
Ouais, c'est très faible. Regarde leur classement dans le 19e. Leur saison
loin.
Est cata. Saint-Maximin est un joueur de talent, mais c'est un joueur qui a la tête dans ses pieds.
Il a progressé quand même.
Il a progressé, mais il a quand même la tête dans ses pieds. Non, en plus d'avoir la grosse tête. Et surtout, tu disais en intro, United encore en combat d'essence. En même temps, qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'un Manchester United qui ne fait pas d'efforts collectifs depuis 5 ans entre Mourinho et Solskjaer, qui ne brille que par des exploits individuels?
Ouais, tu le vois comme ça.
Je sais pas comment tu le vois comme ça. C'est la première ligue, les joueurs, tout le monde qui le voit comme ça. Entre Mourinho qui fouettait ses joueurs et Solskjaer qui abusait de la calinothérapie sur beaucoup d'autres, ça fait qu'à un moment donné, pour ceux qui ont suivi la Bundesliga, Rangnick, c'est un entraîneur qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de rigueur, la multiplication des courses, qui demande à ses joueurs de revenir, qui demande à ses milieux de terrain de monter. Et quand t'as déjà un milieu de terrain central, Fred, McTominay, qui sont deux tours devant la défense et qui ne bougent pas devant la défense, que t'as devant Ronaldo et Greenwood qui ne défendent pas, forcément, ça pose un problème dans l'organisation technique que veut mettre en place Rangnick. Et donc ça fait des matchs qui sont très compliqués. Le gars est arrivé il y a un mois maintenant, ça va pas se faire du jour au lendemain. Par contre, c'est prometteur parce que l'entraîneur, pour le coup, depuis 5 ans, c'est un entraîneur qui a des vraies idées de jeu, des vraies idées de football. C'est quand même un gros théoricien et beaucoup d'entraîneurs en Allemagne se sont inspirés, notamment l'entraîneur du Bayern Munich se sont directement inspirés de Rangnick. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais aujourd'hui, United. Enfin, tu sais, tu peux pas demander à un gars qui sait pas marcher de courir. C'est pareil. Ça fait 5 ans que Manchester United ne joue pas bien collectivement. Et en un mois, tu peux pas leur demander de faire des efforts, même s'il y a des phases qui, par moment, à Manchester, sont quand même intéressantes.
Moi, voilà, les Anglais, moi, c'est que Manchester.
Quand vous parlez de Alain Saint-Maximin,
alors
il a été formé à Saint-Etienne, et quand il a été formé à Saint-Etienne, il y a 2-3 personnes qui sont mises sur son dossier, et comme ils avaient des problèmes financiers, Saint-Etienne, comme aujourd'hui, ils l'ont envoyé en Allemagne sur une proposition où que le petit... Il avait pas compris, et je connais un petit peu le dossier, et je pense que c'était pas le moment d'aller en Allemagne. Quand tu dis il est bête, mais le problème c'est pas lui qui est bête, c'est le problème c'est
qui était bête.
Non, mais quand tu dis il est bête, c'est le problème du football. Aujourd'hui, quand t'as un agent qui gère ce dossier comme il l'a géré, et quand je discute avec son frère 2-3 ans après, bon, et après il m'explique le comment ça s'est passé, la gestion. Et c'est très très mal passé. Après, heureusement qu'il a été orienté à Nice pour retrouver un équilibre. Et en plus de ça, il est tombé sur quelqu'un comme Patrick Vieira qui a su un petit peu le cadrer. Et puis il a fait des gros matchs. Et aujourd'hui, il se retrouve pas dans une galère. Je pense qu'il est à Newcastle. Je pense qu'au mercato, ils vont faire le nécessaire pour avoir 3-4 renforts pour équilibrer l'équipe, pour pas qu'ils descendent. Parce que l'actionnaire, je pense que les fonds, ils les ont pour récupérer des cracks.
Oui.
Et je pense que ce qui va se passer, c'est que tu prends Saint-Maximin. Je pense qu'il mérite un club où ça joue la Ligue des Champions.
Oui.
En parlant de Manchester United, tu prends Arsène Wenger. Quand il a arrêté Arsenal, tu le vois plus dans le stade. Par contre, il y en a un que tu le vois dans le stade.
Ferguson.
Et Ferguson. L'arrivée de Solker, c'est lui qui, mon avis, c'est lui qui l'a. Bon, ça reste mon avis. C'est lui qui a imposé Solker.
Non, c'est parce qu'il était. T'as raison, c'est lui qui l'a imposé.
Alors, il arrivait plus à maîtriser Solker. Le problème, c'est que aujourd'hui, tu prends un mec, tant qu'il y a Ferguson dans les tribunes, tant qu'il y a Ferguson dans le stade, ben l'entraîneur, il sera pas. C'est bien qu'il vienne voir le match, mais le problème, c'est qu'il s'est mis si trop dans les choix des coachs, il s'est mis si trop dans la gestion du club, il s'est mis trop, à mon avis, il doit trop s'immiscer avec les actionnaires. C'est facile de moi, pour moi, c'est un club mythique, Manchester United. Et après, ce qui va et ce qui va pas, je pense qu'il y a, c'est que Giroud, quand il est parti d'Auxerre, il avait Cuperlé en numéro 2, il a tout fait pour Cuperlé, il réussisse pas.
Ouais.
Parce qu'il voulait que ça soit Giroud. Auxerre, c'est Giroud, c'est tout. Et tu regardes, depuis que Giroud est parti, le club, il a pas rebondi en D1. Et là, on se retrouve dans un club comme Manchester United, c'est pas pareil, c'est pas le même club. Mais c'est un des clubs les plus riches du monde, Manchester United. Et si aujourd'hui, ils ont pas les résultats sportifs et ils ont pas, et ça marche pas, c'est ces petits détails-là qui font la différence dans les grands clubs.
Alors, Abdel, et après, on a une personne aussi du côté du standard.
On a vu dans plein de championnats et même beaucoup en première ligue, des équipes qui devaient repartir entre guillemets à zéro ou repartir du début. Je pense que Manchester il y a pas encore eu cet électrochoc. Je pense que comme il le disait Meshad, ils sont toujours sur quelque chose de très lisse. À chaque fois on gagne des gros matchs, on gagne une petite coupe ou quelque chose comme ça. Ils ont pas eu forcément une saison blanche où franchement ils finissent 13e, 14e, on se prend une claque et on se dit que les méthodes ne sont pas adaptées à ce que souhaite le club. Donc à partir du moment où il y aura ça et qu'on s'en rendra compte et qu'on arrêtera de se voiler la face, potentiellement on pourra repartir à zéro. Quand tu parles du style de jeu de mis en place par Rangnick, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, comme tu as dit, qui demande beaucoup, beaucoup d'intensité. C'est vrai qu'au début, il a fait 4-5 matchs et qu'au début, il alignait vraiment que, entre guillemets, des coureurs, des mecs qui étaient capables de répéter ce qu'ils souhaitaient. Et après, finalement, voilà, je pense que si on laisse du temps à quelqu'un, si on part sur un long projet, finalement, ça peut être que bénéfique. Après, voilà, concernant, on parlait de Saint-Maximin, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie. Quand Boula parle de lui à Nice, il était pratiquement tout seul à se débrouiller, on voit au fin fond de l'attaque niçoise. Et là, voilà, je pense que il n'a pas su, ou après peut-être c'est l'entourage, mais il n'a pas su, entre guillemets, se saisir la chance qu'il a eu d'aller en première ligue pour, en tremplin, pour aller dans une top équipe. Après, là, il y a des fonds qui vont venir, donc potentiellement il peut être la tête de gondole du projet.
aller en Ligue des Champions, ça va être ce qui les attend. Ils vont essayer de jouer le haut tableau. Mais honnêtement, voilà. Après, un petit mot avant que Meshad enchaîne.
Ouais.
On parlait de West Ham hier, qui a connu une difficulté et qui revenait un peu dans le milieu du panier. Ils se sont imposés tout à l'heure 4-1. Ils reprennent un peu leur course en avant et c'est une équipe qui est intéressante à voir avec notamment un coach qui est passé par Manchester United et qui a pas connu lui non plus un franc succès.
Et puis moi je rajouterais sur les clubs anglais, surtout des clubs comme Newcastle ou des clubs comme West Ham, c'est des clubs qui magouillent beaucoup dans les mouvements de transfert. Et je pense que les joueurs ils sont victimes un peu de cette gestion. Et c'est pour ça que ces clubs-là, tu regardes, c'est que des mouvements de transfert. Dont un qui s'appelle Willy Mackay qui faisait tout à un moment donné à Newcastle et à West Ham. Et faut à un moment donné prendre ces situations en considération pour que ça marche pas. Parce que bon, tu prends Liverpool ou Manchester United ou quoi que ce soit, c'est des clubs qui magouillent pas. Tu sens que c'est sain, c'est propre.
Ouais, quand même.
Arsenal, pareil.
Ouais.
Mais bon, après, t'as certains agents qui rentrent pas dans ces clubs-là. Et Newcastle, tu prends Saint-Maximin, il est dans un club où tant mieux qu'il y a un autre actionnaire. Je pense que le club, il va mieux. Après, c'est tout dépend du manager général qui arrive et comment il gère le club. Quand tu vois Liverpool comment c'est géré avec Klopp, tu sens qu'il y a une cohérence.
Alors,
de travail.
Allez, une pensée ce soir à Alexandre Ruiz, notre confrère, amitié sincère, et on va essayer de prendre Mohamed qui nous appelle depuis l'agglomération lilloise. Bonsoir Mohamed, qui a composé le 01 53 48 3000.
Bonsoir. Alors moi, j'ai essayé d'aller très vite.
On vous écoute, Mohamed.
Pas de choses à dire. Alors moi, sur Messi, je dirais les choses et tout. C'est que tant que Messi est là, je pense que Lewandowski et tout, il sera tout le temps derrière. Pourquoi ? Parce que moi, je dirais que ce joueur, il va gagner le Ballon d'Or jusqu'à ce qu'il arrête sa carrière. Parce que si on compare Lionel Messi à Lewandowski, je dirais moi que quand je vois Messi jouer, je ne suis pas pour Messi. Hein.
Bien sûr.
C'est quelque chose de magnifique. Voilà, Messi sait tout faire. Un Lewandowski, un gars qui met des buts, moi il a beau mettre une centaine de buts, mais pas de passe sur le terrain.
Ouais.
Ça ne fait rien du tout. Donc je dis, Lionel Messi est on va dire couronné par ce trophée, parce que tout simplement, voilà, c'est un joueur exceptionnel et tant qu'il est là, c'est dommage pour les autres, mais vous serez derrière. C'est tout quoi qu'il fasse. Pourquoi ? Voilà, c'est quelqu'un de. On n'en aura pas beaucoup des joueurs comme ça.
Ouais.
Et j'ai vu Lionel Messi à un moment donné, c'est pratiquement excusé pour Lewandowski, Robert et tout. Mais il n'y a pas à s'excuser, Robert et tout. Il sera derrière, c'est tout. Après, moi, je vais donner deux petits conseils au football.
Ouais.
J'allais dire, parce qu'à un moment donné, vous avez fait une mission, vous avez dit, il y en a un, il a dit, quand je suis à l'entraînement, ça va à peu près. Mais quand je suis sur le terrain, moi, j'ai envie de lui dire, il n'y a qu'une chose au foot qui est très importante.
Alors, c'est quoi ?
Quand tu es sur le terrain, il faut jamais avoir peur de mal faire. Si tu dois dribbler, ne te dis pas, on va prendre le ballon, on va peut-être mettre un but, je vais faire contrer. À partir du moment où mentalement, tu assumes ce que tu fais sur le terrain, même dans ta surface, tu deviens un très bon joueur. À partir du moment où tu te débarrasses du ballon, comme ils font dans le petit football, c'est-à-dire l'entraîneur dit, dégage en touche. Il faut pas rentrer sur le terrain, c'est pas fait pour le foot.
Bien sûr.
J'ai le droit là. Après, je vais donner une tactique pour battre Manchester City.
Alors, allez-y, on vous écoute.
Alors, Manchester City, ça boit des pros, ça boit des stars.
Ouais.
Si tu fais un groupe compact, parce qu'eux, ils procèdent par, on va dire, c'est des gens qui ont l'habitude de monter le ballon, de la défense jusqu'au milieu de terrain, étapes. Donc, si tu prends la sortie du ballon, quand ils vont sortir le ballon, avec un groupe compact, dans les zones qui sont autour du ballon, tu fais un pressing très, très serré. Moi, avec des joueurs d'un moyen, ils font 3-4 passes, ils perdent le ballon. Pour moi.
Bien sûr.
Pour moi, je reste persuadé qu'une équipe qui joue bien, il ne faut jamais te replier dans ton camp et la laisser. Bon, tu vas la chercher, tu lui mets la pression, et tu verras qu'elle va perdre son football.
Mohamed, un grand merci d'avoir été avec nous, d'avoir appelé. La CAN approche, on verra si on vous aura encore une fois sur au téléphone. Et même pour parler, pourquoi pas, de l'édition de la Champions League 2021-2022, ok?
Vous avez vu, elle m'a dit comment elle a gagné la CAN en mettant la pression. Tout ce que vous avez pratiquement comme ça.
Merci Mohamed, merci à Abdel, à Boula et aussi à Meshad de m'avoir accompagné.
Et pour les Anglais, je félicite Patrick Vieira qui a gagné 3-0.
Bravo à lui.
On se retrouve dès demain à partir de 20h, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.